passer dans des émissions à grand retentissement, qui est une sorte de hasard merveilleux comme ça.
Oui, mais plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous connaît, donc...
Si, encore aujourd'hui.
Il faut encore de la chance aujourd'hui, Bernard Werber, pour la sortie d'un livre.
Évidemment.
Oui.
Évidemment, et puis, je crois qu'il y a, pour l'instant, je ne fais pas partie du décor littéraire français. Parce que je suis en dehors du système, j'ai tellement voulu être original que je suis tellement original, je ne suis pas dans le système. Et n'étant pas dans le système, ils n'ont pas l'habitude de suivre mon travail. Les lecteurs, oui, mais pas les médias. Et donc, de temps en temps, il y en a qui, tout d'un coup, pour des raisons comme Bernard Rapp, il dit, ah ben tiens, quelqu'un qui m'a parlé de ça, il paraît que c'est bien, donc ils vont en parler, mais oui, non, je ne fais pas partie des auteurs régulièrement chroniqués.
Ouais.
Et ça me va.
C'est quand même étonnant qu'on ne s'intéresse pas à un auteur qui a vendu plus de, je dis 35 millions, mais c'est peut-être même plus.
En France, toute réussite a l'air suspecte.
Oui, oui.
Je crois qu'en Belgique, c'est moins fort.
Qu'on s'intéresse au moins à la personne que vous êtes, enfin, c'est quand même...
Peut-être que j'ai rien fait non plus pour ça, c'est-à-dire je considère qu'il faut s'intéresser à mes livres et pas à ma personne. Je vois qu'il y a des auteurs qui se mettent en scène, qui arrivent habillés de manière rigolote, qui disent des mots, des insultes ou qui créent des buzz, et c'est un autre travail. Mais c'était pas bien pour moi. Je me perçois comme un artisan. Quand j'écris, je me dis pourvu que les gens soient surpris par la fin. Et je vois ça comme un travail de magicien. Peut-être que les journalistes sentent que j'aime pas faire le show.
Oui.
J'aime pas faire le spectacle, sortir des traits d'esprit qui vont marquer les médias, qui vont être pris partout. Moi, j'essaie juste que tous les trucs intéressants soient directement dans le livre. C'est pas moi. En fait, je considère qu'un bon auteur doit être invisible. C'est-à-dire, si quand vous lisez un livre, vous dites qu'est-ce que c'est bien écrit, qu'est-ce que cet auteur écrit bien, ça veut dire que l'auteur est nul. Parce que le monteur de marionnettes doit être caché. Vous devez, quand vous lisez un livre, vous devez vous dire qu'est-ce qui va arriver au personnage, pourvu qu'il s'en tire. Oh là là, ça j'ai pas vu, je m'attendais pas à ça. Donc il faut que le transfert soit total avec le personnage, pas avec l'auteur. Les auteurs, en fait, on devrait être hyper discrets.
Pour arriver à ça, Bernard Werber, vous écrivez beaucoup et beaucoup de versions du même livre en général. Ouais. Cette valse des âmes qui vient de paraître, vous l'avez écrite 12 fois, paraît-il.
Oui, mais c'est ma technique, c'est que je commence par faire un mauvais livre, puis après je l'oublie, je reprends un truc, et je fais... Alors c'est ma routine, je fais sur 9 mois un livre, la première version est pas bonne, mais je comprends en quoi elle est pas bonne, je fais une deuxième version qui est un peu mieux. Et
Enfin, vous ne reprenez pas la première que vous retravaillez, vous faites une nouvelle version.
Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, des fois, je donne à lire à des amis pour avoir des avis, et ils me disent, ah, mais dans ta version 3, il y avait un truc super qui n'y est plus. Oui, c'est le prix à payer. C'est en faisant plusieurs versions. Il y en a qui se passent dans d'autres pays, il y en a qui se passent avec d'autres personnages. C'est toujours le même principe d'intrigue, mais traité différemment. Donc, en effet, j'ai écrit 12 romans pour écrire La Valse des âmes. Et en général, je m'arrête quand j'y vois plus rien. Donc, c'est pas forcément quand c'est la meilleure version, mais c'est à force de le réécrire, je n'ai plus le recul nécessaire, et puis quand j'en ai marre.
Et quand c'est publié, parfois, vous allez retrouver les anciennes versions pour voir un peu ce que vous avez fait à la 2 ou à la 3, ou à... Elles existent quelque part.
Elles existent dans mon disque dur, mais je n'y reviens jamais. C'est juste Sylvain Timsit, qui est mon webmaster, qui a la patience de lire toutes les versions, qui lui, des fois, pique des grandes colères, mais il dit « Pourquoi ça n'a pas mis cette version-là? Pourquoi t'as coupé le début ?» Et c'est un gag entre nous. Ça fait maintenant 30 ans que ça dure. Il lit les versions, il est en colère que je perde des choses d'une version à l'autre.
Je vous en prie, prenez un mot.
Vrai. Alors déjà, ça me surprend que vous n'ayez pas mis vérité, mais je considère que c'est vérité. Est-ce que c'est ce...
Oui, vrai. Vrai, pas vrai.
Alors, moi, c'est la lecture... Le dernier. Postérité. Alors... Tout ce que je fais à ma famille, que ça soit mon œuvre, que ça soit peut-être cette interview qui restera.
Peut-être qu'on la réécoutera, peut-être qu'on ne sera plus là ni l'un ni l'autre, mais des gens nous écoutent peut-être à l'instant et on n'est plus là.
Alors, je pense que tout va rester sur Internet, ça se fait que dans 1000 ans,
oui, bien sûr.
On découvre cette interview. Et c'est vrai que je n'ai pas souvent parlé de ça. Je suis très attentif à qu'est-ce qu'on laisse comme trace. Et même les autres auteurs, quand je discute avec eux, je me dis, eux, qu'est-ce qu'ils vont laisser comme trace? Qu'est-ce que moi, je laisse comme trace? Quand j'ai commencé à écrire et que ça commençait à marcher, je me suis dit, il y a deux choses qui m'intéressent, le temps et l'espace. Le temps, c'est que dans le futur, mes livres soient encore lus, comme Jules Verne, comme probablement Philippe K. Dick, comme mes maîtres, et qu'ils aient encore du sens. Et l'espace, c'est que ça ne soit pas que en France, en Belgique, en zone francophone, mais que ça touche tous les peuples. Donc, vu que j'ai fait ce choix-là, je crois que je vais avoir. Je crois que dans la vie, on a ce qu'on demande. Et vu que j'ai, pour revenir au sujet précédent, vous me demandiez les critiques, j'ai pas fait du tout le choix des critiques dithyrambiques et des prix littéraires, donc je n'ai pas ça. Mais j'ai cette autre chose. Mais ça me semble tellement intéressant de pouvoir toucher d'autres générations dans le futur. Jules Verne, quand même, je vois, mon fils lit Jules Verne à l'école, et c'est des histoires d'une technologie ancienne, et visiblement pour lui ça a du sens. Donc j'essaie vraiment de me mettre sur ce sillon-là, comme Barjavel aussi, ça garde du sens, comme Philippe K. Dick, comme Asimov, comme Frank Herbert, dont on découvre les œuvres. Tolkien, c'est des gens qui font de l'art qui résiste au temps. Et c'est ce qui m'intéresse, l'art qui résiste au temps. Après, j'ai l'impression que ce que je raconte peut avoir du sens pour les prochaines générations. On ne comprend pas forcément, on va se dire, bon, il parle des vies antérieures, il parle du jugement de l'âme et tout, mais je parle de choses qui peuvent prendre encore plus de sens plus tard, par exemple quand on maîtrisera plus, ou sera plus répandu la méditation, ou qu'il y aura plus de curiosité sur comment fonctionne notre inconscient et comment s'est construit notre ADN et comment s'est construit notre esprit.
Pourquoi est-ce que vous voulez vous inscrire dans le temps? Pourquoi c'est important justement de faire ça et de ne pas écrire simplement avec une notion de plaisir?
Ah, mais les deux, le fait d'écrire
dans le temps... Les deux peuvent être liés, mais...
Oui, le fait d'écrire dans le temps m'apporte du plaisir. Oui. C'est-à-dire, ça me donne le sentiment d'être immortel.
C'est
là,
ça, voilà.
Si je sors dans la rue, je me fais écraser par un camion, il va y avoir quand même 34 romans qui parlent de personnages que j'ai inventés, plus cette interview, plus toutes les interviews que j'ai faites, plus peut-être les quelques captations qu'il y a du spectacle. Donc là, si je sors, mon esprit va continuer à produire des effets sur les gens et ça continue à communiquer. Mmh. Et le contraire, ça serait d'avoir une vie dans laquelle on ne laisse aucune trace. Ce que je trouve un peu vraiment triste, c'est-à-dire qu'en gros, il y a vos enfants qui se rappellent de vous, puis après vos petits-enfants qui se rappellent vaguement de vous, puis après vos petits-petits-enfants qui regardent des photos de vous mais qui se rappellent plus très bien qui vous étiez, et puis après la génération suivante ne se rappellera même pas de votre prénom. Moi, mon prénom, Bernard Werber, est lié à mon arrière-grand-père qui vivait en Pologne et tout ce que je sais, c'est qu'il est mort de froid parce qu'il a prêté ses bottes. Il fabriquait des traîneaux et il a prêté ses bottes à un ami qui avait des bottes trouées. Et du coup, il est rentré, il s'est pas aperçu qu'il n'avait pas de bottes lui-même, il est rentré pieds nus. Et en rentrant, il a toussé et il est mort de froid. C'est tout ce que je sais de Bernard Werber. Je ne sais pas quelle tête il a et je sais que du coup, j'ai hérité son nom. Et je pense que mes arrière-petits-enfants auront plus de possibilités de savoir qui je suis parce qu'il y a plein de photos, il y a plein de vidéos.
En même temps, vous allez leur transmettre autre chose à travers vos enfants, qui est des valeurs. Quelle est la valeur que vous avez envie, qui n'est pas quelque chose d'apparent, qui n'est pas une trace écrite ni publique? Quelle est la valeur que vous avez envie de faire passer
à mes enfants?
À vos enfants, qui peut-être la feront passer par la suite?
Le bonheur est dans la créativité. S'ils n'ont pas un travail créatif, s'ils ne sont pas dans un endroit où ils sollicitent en permanence leur cerveau et ils sont curieux de tout, ils vont rentrer dans ce qu'on a vu tout à l'heure, des routines, et là c'est comme s'ils avaient pris leur retraite, on peut prendre la retraite dès 25 ans. Il faut être curieux du monde. J'ai envie de transmettre cette idée que la joie est le moyen de savoir qu'on est sur le bon chemin. Et le bon chemin, c'est regarder tous les chemins. Et avancer en étant émerveillé par le monde. Et ensuite transformer cet émerveillement en œuvre, que ce soit de la musique, de la peinture, du cinéma ou de l'écriture. Mais si on est sur cette voie-là, les choses sont beaucoup plus agréables. J'ai travaillé en entreprise, j'ai même été archiviste à la Dépêche du Midi, qui était le journal de Toulouse. Et j'ai vu ce que c'est qu'une vie où on répète tous les jours une activité qui n'est pas créative et qui dépend d'autres personnes. Au bout d'un moment, notre vie perd du sens. Et je comprends que les gens soient... Après, ils aient besoin de se gaver de télévision, de jeux vidéo, parce qu'ils ont besoin d'oublier ça. Il y a aussi cette possibilité de trouver un métier créatif. Et je crois dans un futur où il y aura plein de petites entreprises formées avec des petits groupes de gens créatifs qui s'amuseront. On voit ça un peu dans le cinéma, on voit ça un peu dans Silicon Valley. Mais ça c'est l'avenir. Et le contraire, c'est des grandes entreprises dans lesquelles plus personne sait ce qui se passe. Et il y a des chefs qui sont là pour tenir le troupeau et tout le monde est malheureux. J'ai vu ça chez des gens qui étaient dans des grandes administrations et qui étaient tout le temps en désespérance parce que leur vie n'avait pas de sens.
Bernard Werber, mot de la fin, vous me l'avez tendu sur un plateau, puisque on parlait de postérité, d'interview qui traverse les époques. Imaginez que dans 1000 ans, quelqu'un retrouve cette interview et l'écoute. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à cette personne qui nous écoute dans 1000 ans?
Dans 1000 ans, j'ai envie de lui dire, en 2024, on était quand même sacrément stupides. Et j'espère qu'en 2024, vous avez compris des choses qui, pour l'instant, ne sont pas encore diffusées. J'espère qu'en 2024, vous avez développé votre spiritualité, parce que nous, là, actuellement, on vit dans la peur et dans le matérialisme, et que c'est fatigant, et que ça nous rend pas heureux. J'espère que vous êtes heureux en ayant trouvé d'autres chemins.
C'est un beau mot de la fin, je pense.